Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
Bonjour à toutes et à tous, ici Anaïs Delomel au micro pour un nouvel épisode de notre série d'émissions Nos aînés connectés. Un projet d'émission qui, je vous le rappelle, est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dans Nos aînés connectés, et comme vous avez déjà pu le découvrir au travers de nos premiers épisodes déjà diffusés sur les ondes de Choc FM 105.1, mais aussi présents en ligne sur notre site chocfm.ca, nous essayons de mettre en lumière toutes les arnaques liées à la cybercriminalité et ainsi à sensibiliser nos auditeurs face aux mauvais traitements envers les aînés en ligne, en particulier en matière d'exploitation financière et également émotionnel. Nous voulons également, à travers ce projet, favoriser l'inclusion sociale et réduire l'isolement de ces populations particulièrement touchées par les cybercriminalités en tout genre, et ce, d'autant plus depuis la pandémie de la COVID-19. Alors, dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés aujourd'hui, nous allons revenir sur les témoignages de deux résidentes du centre accueil Héritage qui expliquent leur expérience avec la fraude. Parce que oui, ce que nous apprenons dans Nos aînés connectés, c'est que tout le monde peut être victime de fraude à un moment ou à un autre. Les jeunes, les personnes actives ou encore les personnes plus âgées. Mireille et Zénon en sont la preuve. Même les personnes âgées sont victimes de fraude et à vrai dire, elles le sont plus que les personnes actives. Tout simplement parce qu'elles sont moins au courant des nouvelles supercheries des arnaqueurs. Parce qu'ils sont malins quand même ces arnaqueurs. Ces derniers ont eu le courage de nous raconter leurs histoires, car il est vrai que de nombreuses personnes victimes d'arnaques n'osent pas en parler, par peur de représailles ou tout simplement parce qu'ils ressentent une certaine honte d'être tombés dans le panneau. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Je tiens à vous rappeler, chers auditeurs de Choc FM 105.1, que ce n'est pas grave, cela peut arriver à n'importe qui, il n'y a aucune honte à avoir. J'ai mentionné que les deux témoignages des personnes âgées que nous aurons aujourd'hui sont des résidents du centre accueil Héritage. Mais est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Eh bien, à la fin des années 1970, un groupe de résidents de Toronto entreprend des démarches pour obtenir des services de santé et des services sociaux en français pour les membres de la communauté francophone vivant à Toronto qui sont âgés ou handicapés. Depuis, ils n'ont cessé d'évoluer en fonction des besoins de la communauté. Ils ont maintenant plus de 45 ans d'expérience et sont accrédités par Agrément Canada depuis 2018 et une deuxième fois avec mention en 2022. Ils comptent parmi leurs clients des personnes âgées et les adultes handicapés qui ont besoin d'aide et d'encouragement pour tirer le meilleur parti de leurs capacités physiques, cognitives, mais aussi sociales, et leur permettre de jouir de la meilleure qualité de vie possible. Les adultes de 55 ans et plus qui souhaitent rencontrer d'autres francophones pour discuter, apprendre et se détendre dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Les personnes vivant avec le VIH, SIDA, qui ont besoin de soins et de services pour continuer à jouer un rôle actif dans la vie communautaire et pour se sentir soutenues dans les moments difficiles, ainsi que les parents, amis et proches à la recherche d'informations, de soutien et de répit afin de continuer à s'occuper d'une personne vulnérable ou en perte d'autonomie. Alors, petit rappel, il s'agit du centre d'accueil Héritage qui habite plusieurs personnes âgées, notamment Zénon et Mireille, que nous aurons dans cet épisode de Nos aînés connectés. Je tiens à préciser que pour finir, vous aurez également quelques conseils de la rédaction de Choc FM 105.1 qui vous permettront d'avoir un récapitulatif de toutes ces arnaques auxquelles vous pouvez potentiellement être victime. Bon épisode à tous et à toutes. J'espère que ce dernier va vous offrir l'occasion de vous sentir plus rassurés face à ces situations parfois compliquées à gérer lorsque nous ne sommes pas suffisamment armés. Et je suis convaincue que, chers auditeurs de Choc FM 105.1, vous deviendrez experts en la matière. Bonne écoute.
Nos innés connectés, témoignages.
Ils sont truqués, ces gens-là. Ils sont truqués, ils savent exactement comment faire pour t'accrocher. Et je me suis fait accrocher, mais ça n'a pas été tellement terrible. Ça a été facile de m'en débarrasser. Et je ne sais pas comment ça qu'ils ont eu mon téléphone. Mais ça, habituellement, j'essaye de pas donner mon téléphone. Mais je donne le téléphone aux amis et les amis ont donné. Et je sais que c'est des choses qui s'arrivent. Mais j'ai confiance aux gens et je veux bien les aider. Mais je sais qu'ils sont honnêtes. Alors, et des fois, il y a des croches dans la rue, dans la vie. Hein. Et je me suis débarrassée tout de suite et j'ai arrêté tout de suite. Je fais plus confiance maintenant. Il faut être vraiment, vraiment... Il faut que je sois vraiment confiance pour aller plus loin.
Et là, pour revenir sur ce téléphone, il vous pose quelques questions.
Quand j'ai raccroché, je me suis dit, j'ai fait quelque chose de pas correct. Alors, je suis allée voir une employée et que je la connais. Et elle a dit, c'est vrai, t'as fait des petites conneries. Alors, elle dit, faut absolument que tu t'organises pour arrêter ça tout de suite. Alors, il n'y a pas eu de problème après.
C'est-à-dire que vous avez pu prévenir votre banque?
Ah non, je ne suis pas allée si loin que ça. Attends un petit peu. Non. J'ai toujours été vraiment serrée avec l'argent. J'ai toujours fait de l'aide. Maintenant, je suis à la retraite. Alors maintenant, je suis riche. Malheureusement. Je dois être honnête. C'est ça l'histoire.
Donc, si je comprends bien l'histoire, on vous a appelé. Vous avez donné quelques éléments d'information.
Oui. Trop d'informations, oui.
Mais rien qui ne permette à la personne de...
Non. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Je les ai dit tout de suite. Je les ai dit à la banque. Hein. Pas rien de ça. Puis j'ai rien fait. Puis je leur ai pas donné de chèque. On m'a dit à la banque, faut pas que tu donnes des chèques parce que ils peuvent les copier, puis peuvent blablabla. Alors, avec ça, que je me souviens pas comment ça se fait, que je me suis fait pogner. Je comprends pas comment ça se fait. C'est arrivé. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Après ça, vous avez contacté le centre anti-fraude ou un centre pour voir les...
Non, Julie s'est occupée de ça. Les amis ici, ils sont très bien. Les employés ici sont fabuleux. J'ai eu l'aide d'ici et ça a été suffisant.
Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens qui utilisent les outils numériques?
Ah, raconte pas d'histoire. Raconte pas leur vie parce que eux autres, ils vont l'apprendre. Ils vont prendre des renseignements que tu peux pas vraiment leur donner des choses.
Donc là, si on vous appelle aujourd'hui, si quelqu'un vous appelle.
Non, je raccroche. Il n'y a plus de problème. En français, en anglais, en chinois, en n'importe quoi, je raccroche, je ne veux rien savoir.
À quel moment vous êtes rendu compte que ce n'était pas correct, le coup de téléphone? C'était pendant la discussion ou c'est...
Non, c'est après quand j'ai raccroché. J'ai dit, j'ai fait quelque chose de niaiseux. Il va falloir que je m'organise pour savoir comment c'est grave. Et puis, elle me dit tout de suite, hein, arrête ça tout de suite. Et comme je suis docile, j'ai arrêté. Je suis aventurière, mais jusqu'à un certain point.
Nos innés connectés, témoignages.
En tant que tel, je ne passe pas beaucoup de temps sur Internet. J'essaye même de ne pas y passer beaucoup de temps. J'utilise mon téléphone ou mon ordinateur quasiment plus. J'utilise maintenant mon téléphone. Et le peu de temps que je passe ainsi sur mon téléphone, c'est pour écouter les informations, c'est pour assister, participer aux conférences sur Zoom ou pour donner des conférences sur Zoom. Voilà, j'essaie de limiter le temps pour regarder des choses. Je passe très peu de temps parce que je n'en ai plus.
Zénon, vous m'avez raconté avoir été arnaqué au téléphone quand vous êtes arrivé au Canada. Comment s'est passée cette première histoire?
Eh bien, la personne avait visiblement mon numéro de téléphone. Il m'a appelé. Je ne connaissais pas les mœurs d'ici. Il m'a appelé, il m'a dit, oh, monsieur Nicenzi, c'est vous, oui. Vous avez gagné. 250 000. J'ai dit, comment gagner 250 000 $? Oh là là, c'est formidable. Alors, il m'a dit, oui, vous avez de la chance, mon cher, vous êtes formidable, c'est vous qui êtes formidable. J'ai dit, alors il m'a dit, voilà, nous vous demandons de nous chercher un petit montant et nous allons vous montrer comment vous allez avoir 250 000, c'est pour vous. J'ai dit, c'est un montant que je ne suis pas capable de... Comme ça. Et pas une fois, pas deux fois. Cela m'est arrivé plusieurs fois.
Et quand vous dites que vous n'avez pas les moyens, il n'y a plus de nouvelles, la ligne, ça raccroche.
La ligne devient silencieuse. Oui.
Et derrière, vous faites quoi?
Mais je ne savais, je n'étais pas avisé de ce genre. Je n'étais pas avisé. J'ai raconté ça à mes amis. Ils ont dit, attention, attention, n'accepte jamais de répondre à ces gens-là. Ne donne pas un rond, ne donne pas un dollar. Ce sont des fraudeurs terribles. J'ai cessé avec ce genre-là. Fini.
Donc aujourd'hui, comment vous vous comportez quand vous avez un coup de téléphone?
Eh bien, aujourd'hui, quand un numéro de téléphone m'appelle, je ne connais pas, son nom n'est pas écrit, je ne réponds pas. Parce que je me suis déjà trouvé dans des conditions difficiles. Je ne réponds plus quand la personne n'apparaît pas sur le numéro de téléphone. Quand je ne reconnais pas, je ne réponds plus.
Quand vous avez reçu cette demande de versement de 250 000 dollars, qu'avez-vous fait? Avez-vous contacté le centre antifraude?
Non, je ne connaissais pas encore, je n'étais pas encore informé de tout ça. J'étais au début de mon séjour au Canada et je simplement informé mes amis ici. Ils ont dit, oh là là, sois prudent.
Vous m'avez parlé d'une deuxième histoire qui s'est déroulée au téléphone aussi. Un inconnu vous a appelé et vous ne saviez pas de quoi il vous parlait, mais il a cité le nom d'un ami à vous. Vous étiez en dehors du Canada à l'époque.
Et un bonjour, je reçois un téléphone. Il m'appelle, il me dit, vous savez, monsieur, c'est monsieur Tel, oui. Je réponds, et vous savez, votre ami Tel, je ne dis pas son nom, votre ami Tel, il a fait un accident, il m'a dit où? Il m'a dit où? J'ai dit, oh, oh. Oui, il a dit oui. Il a fait un accident, et il vous demande de lui envoyer 10 000 francs. Je me dis, oh mon Dieu, c'est elle que j'apprécie beaucoup. Je lui ai dit, mais où est-ce que je peux... Il m'a dit, oui, envoyez-moi ça tout de suite. Et sur... j'ai dit, je n'ai pas 10 000, mais je vous envoie 5 000. Donnez-moi toujours ça, je vais vous chercher encore les 5 000. Je lui ai envoyé les 5 000. Et puis, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est vraiment lui? Alors, je l'ai appelé sur son numéro de téléphone cette fois-ci. Il m'a dit, non, moi je ne vous ai jamais appelé. Je me suis laissé avoir, j'ai payé les 5 000. Évidemment, qui était cette personne qui m'a appelé? Évidemment, elle connaissait mes relations avec la personne. Comment elle connaissait mes relations intimes, pas intimes au sens, non, mes relations professionnelles et mon amitié pour la personne? J'ai pris le numéro, il a appelé sur mon numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone s'est inscrit sur le mien. J'ai demandé qui est cette personne. Ils ont cherché au système téléphonique, au central. Ils ont dit ça appartient à tel. Et tu n'as pas de chance, il est en prison. Je n'ai pas poursuivi, je me suis dit 5 000. Mais c'est arrivé comme ça.
Nos aînés connectés, le point de vue de l'expert.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Bénédicte Chopflin. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 105.1. En effet, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés, Comment tu vas, Bénédicte, aujourd'hui?
Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée à parler aujourd'hui.
Eh ben, écoute, moi, je suis très contente, justement, de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir parler de sujets d'actualité. En effet, celui des arnaques que l'on retrouve un peu partout sur Internet, malheureusement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est que le réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et quelle est sa vocation première?
Oui, absolument. Donc, le réseau canadien, qu'on connaît plus souvent par son acronyme RCPMTA ou CNPEA en anglais, c'est le seul réseau pan-canadien qui se penche sur la question de la maltraitance des aînés et même aussi, je vais dire, de l'âgisme. Et donc, nous, notre mission, c'est vraiment d'éduquer le public, d'améliorer la sensibilisation au sujet de la question. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Comment réagir? Où trouver de l'aide selon où vous vous trouvez dans le pays? Ça implique aussi, bien entendu, de proposer des ressources bilingues parce que c'est pas facile non plus quand on est francophone, des fois, de trouver les services nécessaires pour quand on en a besoin. Et puis, on a aussi créé donc notre site cnpea.ca. C'est un peu une librairie gratuite de ressources qui rassemble l'essentiel de ce qu'on sait sur la maltraitance, autant au niveau études, ressources, documents faciles pour à distribuer, services de soutien, tout ça en un endroit. Parce que sinon, ça peut être très difficile pour une personne qui est un peu en panique ou en besoin d'informations de trouver ça. Donc, on a créé cette espèce de hub pour permettre aux gens de se connecter les uns aux autres et de trouver ce dont ils ont besoin rapidement.
Alors, c'est vrai que depuis de nombreuses années maintenant, on voit de plus en plus d'arnaques en tout genre sur Internet, que ce soit des faux sites Internet qui arnaquent les gens en prenant leurs informations bancaires ou leurs données personnelles, que ce soit en lien avec les intelligences artificielles ou encore les fraudes autour des crypto-monnaies, par exemple, pour citer que quelques exemples. Le résultat, il est flagrant, de plus en plus de Canadiens se font avoir. Et en regardant de plus près, on se rend compte que bien souvent, c'est souvent les personnes âgées qui sont victimes de ces arnaqueurs 2.0. Du coup, Bénédicte, je me demandais à partir de quand vous avez pu remarquer des recrudescences de ces arnaques envers les personnes âgées et qu'est-ce qu'elles te disent quand elles viennent vers toi ou qu'elles viennent vers vous en général au réseau de manière générale?
Alors, ces arnaques, elles ont toujours existé. D'une façon ou d'une autre, c'est quelque chose qui a toujours été là. Simplement, avant, c'était peut-être un peu plus du porte-à-porte. C'était l'ami d'un ami, c'était quelqu'un que vous aviez rencontré à une fête dans la communauté ou peut-être dans votre lieu de pratique religieuse qui vous faisait une offre exceptionnelle qu'on pouvait pas refuser. Simplement, maintenant...
Le représentant Tupperware ou
voilà.
Quelle marque de truc.
Ou le gars qui essaie de vous vendre un service pour venir couper vos arbres dans le jardin et puis après qui vous demande plus d'argent que prévu et qui fait des scènes. Enfin, il y avait toutes sortes de formats avant. Et puis maintenant, au fur et à mesure que la technologie a évolué, les arnaques ont évolué avec. Donc, téléphone, puis téléphone portable, Internet, toutes les plateformes utilisables, vous pouvez en trouver sous différentes formes. Qui ne changent pas, au fond, c'est toujours... Il y a deux choses. C'est les sortes de mécanismes que les arnaqueurs utilisent pour faire tomber quelqu'un dans le panneau et puis pour les faire agir sans réfléchir. Donc, c'est toujours créer cette espèce de sens d'urgence. Pas le temps de réfléchir. Il faut le faire maintenant parce que soit vous allez avoir des problèmes si vous le faites pas tout de suite, soit vous allez rater une occasion géniale si vous le faites pas tout de suite. Comme ça, pour pousser les gens à passer à l'action avant d'avoir pris en compte tous les détails parce que sinon, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche. Et puis, l'autre chose qui ne change pas, bien entendu, c'est l'impact que ça a sur les effets que ça a sur les personnes qui en sont victimes. Parce que une fois l'arnaque complétée, la chose faite et l'argent perdu, très souvent difficile à récupérer, il y a tout un mélange de sentiments qui se manifestent. Donc, il y a la honte profonde de se dire qu'on a été bête et qu'on est tombé dans le panneau, qu'on aurait dû se méfier plus. Il y a généralement la panique ou le désespoir qui est associé à avoir perdu souvent une grosse somme d'argent, parce que pour de nombreuses personnes, ça peut être la différence entre avoir un appartement et pas avoir un appartement. Ça peut être ce qu'ils ont économisé toute leur vie pour avoir une retraite digne de ce nom. Ça peut être, on parle pas de petites sommes, c'est des grosses sommes, et c'est des grosses sommes qui souvent sont données par petits bouts, les uns derrière les autres, donc se rend pas compte forcément quand on est au cœur d'une arnaque de ce qui se passe, et à la fin, quand les personnes font le total, elles réalisent qu'elles n'ont plus d'économie, elles n'ont plus d'argent en banque, et donc ce mélange-là de détresse, de honte, de pas vouloir en parler, parce qu'en plus on se dit, maintenant les gens vont penser que j'ai plus ma tête, Parce que l'agisme, quand même, c'est aussi fort dans cette affaire. Et donc, quand quelqu'un se présente et dit « je crois que j'ai été victime d'une arnaque et j'ai perdu tout mon argent », la peur est que la personne en face de vous se dise « ça y est, elles ont perdu la boule, elles peuvent plus vivre seules, il va falloir qu'elles aillent vivre avec nous ou dans un établissement ». Et donc, toutes ces peurs rattachées à la perte d'indépendance, à ce qu'on les gens vont penser de vous, ça se cristallise comme ça dans un silence pesant où les personnes ne vont pas vouloir en parler. Elles ne vont rien dire et elles vont se retrouver à essayer de gérer les conséquences de tout ça toutes seules, ce qui est généralement pas la meilleure solution.
Mais d'ailleurs, est-ce qu'il existe un petit peu, tout à l'heure tu parlais de ce truc où quand on reçoit un email ou que ce soit un appel ou que ce soit, bref, une fraude qui essaye d'entrer dans notre vie, entre guillemets,
oui.
Il y a toujours un dénominateur commun, un petit peu, tu parlais de l'urgence tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres façon de reconnaître, alors d'une façon assez générale forcément, là, puisqu'on ne va pas rentrer dans le détail de chaque arnaque, parce qu'il nous faudrait un an pour les détecter tous, parce qu'en plus, comme on disait aussi hors antenne, il y a le truc de nous, on parle des arnaques dont on a connaissance aujourd'hui, mais ça se trouve, il y en a certaines qui sont déjà en train d'être pratiquées qu'on ne connaît pas, parce que les gens, comme on dit, par honte ou quoi que ce soit, ils n'osent pas encore en parler, et ça se trouve d'ici... Allez, un mois, six mois, un an, on va avoir écho de trucs, on se dit, waouh! En fait, ça faisait déjà longtemps qu'on était là-dedans. Mais du coup, voilà, si de manière générale, il y avait une façon de détecter un petit peu, de les reconnaître, ces arnaques sur Internet, ce serait par quoi et comment, Bénédicte?
Alors, une des premières choses que vous allez toujours entendre ou voir quand on parle de signes pour reconnaître les fraudes, c'est très souvent quand vous avez des textos, des courriels, des choses comme ça, il va y avoir des formulations un peu étranges ou des erreurs de grammaire dans la façon dont le texte est écrit. Alors bien entendu, c'est pas tout le monde n'est pas non plus pas grammaticalement parfait, donc c'est pas la seule chose, mais c'est un premier signe. Et puis aussi, par exemple, disons que vous recevez un email du service d'un service canadien du gouvernement. Bon, ça va peut-être dire dans la signature que c'est un service du gouvernement, mais si vous regardez l'adresse courriel elle-même et que vous posez votre souris juste au-dessus, le curseur juste au-dessus en flottant, l'adresse email elle-même ne va pas être une adresse genre arc.gc.ca. Ça va être quelque chose de complètement différent. Ça, c'est les petits signes techniques déjà qui vous disent que ça ne vient pas de la source qu'ils clament être. Après, au niveau plutôt de l'émotif, donc il y a le sens de l'urgence, donc toujours la pression. La pression qui peut être soit vite, ne ratez pas cette opportunité spéciale, ou la pression, comme on en a beaucoup reçu, de ces messages qui disent ici, l'Agence du revenu du Canada, vous nous devez de l'argent, nous allons venir vous arrêter à votre porte, nous allons vous déporter, des choses comme ça. Ou d'un coup, c'est plus des menaces qu'autre chose. Et donc là, c'est une chose à savoir et dont il faut se rappeler, c'est que surtout quand ce sont des messages où ils prétendent être soit du gouvernement, soit de votre banque ou de choses comme ça, votre gouvernement, votre banque, ils ne vont pas vous envoyer des messages de menaces. Et ils ne vont pas vous envoyer des messages avec un lien à cliquer dans lequel il faut rentrer vos informations. Généralement, dans ces cas-là, si vous êtes inscrit avec, par exemple, l'Agence du revenu du Canada en ligne, ils vont vous dire, vous avez un message dans votre plateforme en ligne, allez vous connecter dans votre plateforme du gouvernement canadien. Jamais ça va être cliquez ici et puis suivez les instructions pour répondre aux informations. Donc, la pression, que ce soit positive ou négative, c'est un signe clair. Généralement aussi, quand on vous promet quelque chose qui a l'air trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est en effet trop beau pour être vrai et que c'est faux. Donc, la promesse d'une somme d'argent qui va vous tomber comme ça sous le nez parce que vous avez un cousin que vous connaissiez pas aux États-Unis qui est mort, généralement, c'est pas réel. Et ce qui est certain, c'est que si vous devez payer pour obtenir de l'argent en retour, c'est une arnaque. Donc, si l'argument est vous allez hériter de l'argent d'un cousin qui est mort aux États-Unis, mais pour pouvoir débloquer ça, il faut que vous payiez d'abord l'avocat $5,000 et ensuite vous allez toucher $5 millions, c'est une arnaque. Récemment, ça ne s'adressait pas à des personnes âgées, mais j'ai vu à Vancouver, c'était des étudiants qui étaient dans les métiers d'art ou dans les professions d'art qui avaient été contactés par Instagram, par quelqu'un qui leur disait qu'il voulait les commissionner pour faire des peintures, des pièces d'art, et en leur disant, je vais vous payer, je sais plus, disons $500. Et ensuite, qu'il leur envoyait un chèque pour $5,000 et leur disait, je pouvais pas, notre système ne nous permet pas de faire un chèque de moins de $5,000, donc c'est pas grave, encaissez ça, et puis renvoyez-nous $4,500 et vous gardez les 500. Sauf que la plupart des jeunes générations, en tout cas, déposent leur chèque avec leur téléphone au lieu de la porter en banque, et parce que s'ils l'avaient apporté déposer en banque, laquelle la personne à la banque aurait été capable de leur dire immédiatement ce chèque est faux. Quand vous le faites par le système sur votre téléphone, c'est pas la même chose. Donc ils ont fait ce qu'ils pensaient avoir déposé leur argent et ensuite ils ont envoyé la différence à la personne qui a bien entendu gardé leurs sous et eux n'ont jamais vu l'argent se manifester dans leur compte. Donc ça arrive à tous les âges, je voulais le dire parce que c'est important, mais c'est vrai que certaines arnaques sont particulièrement focalisées sur les personnes âgées et puis surtout prennent avantage du fait que certaines personnes aînées ne sont peut-être pas autant branchées que d'autres et sont moins à l'aise sur Internet. Et donc, si vous commencez à parler de quelque chose un peu obscur, les personnes vont se dire « bon, bah oui, c'est Internet, je comprends pas tout, mais ça m'a l'air normal ». Donc, la promesse d'argent qui va vous arriver si vous payez quelque chose en retour, c'est pas bon signe. Et puis, donc, généralement, la manipulation émotionnelle, hein, si vous voulez. Donc, que ce soit de vous faire peur, d'exploiter votre politesse, les gens qui n'osent pas dire non parce qu'ils veulent rester polis, de faire semblant de devenir votre ami, faire semblant de devenir un potentiel intérêt romantique, une personne qui voudrait vous rencontrer, etc. Tout ça, ça peut vous mener à des arnaques plus grandes et généralement qui prennent leur temps. Ça va pas forcément être quelque chose qui est fait en 30 secondes. Dans certains cas, les arnaqueurs même bâtissent des relations et appellent les personnes régulièrement jusqu'à ce que ces personnes les considèrent comme des amis ou des confidentes.
Je me disais, voilà, avec toutes ces nouvelles technologies, un petit peu, c'est compliqué pour les personnes âgées. Est-ce qu'il existe des formations ou en tout cas des méthodes d'éducation pour justement reprendre point par point? Alors, pas faire du bourrage de crâne parce que sinon, c'est pas productif non plus, parce qu'à force de leur dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, ils vont plus avoir peur. Se rendre compte que les nouvelles technologies, c'est aussi un outil qui est formidable quand on arrive à faire un peu la balance entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Mm-hmm. Mais est-ce que ça existe des formations pour les aînés et à quelle fréquence il faudrait qu'ils aient justement des petits points de reminder, pour parler du bon français, pour justement avoir des petites touches de rappel, de se dire ça, la dernière fois on en a parlé, mais sachez que maintenant il y a des petites mises à jour sur telle arnaque et puis ça peut arriver sous telle et telle manière.
Oui. Alors, des formations, oui, il en existe. L'Agence antifraude du Canada offre des présentations menées par des personnes aînées pour les personnes aînées, pour vraiment que les personnes se sentent à l'aise de parler dans un cadre avec leur père et de parler de ces choses-là. Vous avez des ressources qui sont mises à disposition par l'Association des banquiers canadiens, qui j'en ai vu récemment justement, qui étaient des fiches. C'était des fiches très simples, une page, deux, avec du langage très clair, qui a été développée sur, ça s'appelle Questions d'Internet, et donc qui vous apprennent à reconnaître comment est-ce qu'on peut savoir qu'un site Internet est sûr, comment est-ce qu'on reconnaît un email spam, comment est-ce qu'on choisit des mots de passe qui sont solides, etc., etc. Et à chaque fois, c'est des pages simples. Donc, elles peuvent être imprimées, elles peuvent être distribuées, elles peuvent être partagées. C'est quelque chose, moi, je suis une grande fan de choses simples. Surtout quand on parle de choses qui ont l'air comme ça compliquées, le plus simple et le mieux. Bien entendu, vous avez aussi des centres qui sont des centres de communautaires pour personnes aînées qui vont des fois proposer des formations ou des séances d'information à ce sujet-là. Donc, ça vaut toujours le coup de demander si vous appartenez à un centre ou si vous vivez dans une résidence pour aînés, par exemple, demandez aux personnes qui gèrent cette résidence s'ils ont pensé à organiser une session à ce sujet-là et s'ils le feraient, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde de faire quelque chose comme ça. Et je recommande aussi, et c'est toujours un petit peu difficile, mais si vous êtes retrouvé face à face à une arnaque, que vous soyez tombé dans le panneau ou pas, parlez-en. Parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis, parlez-en dans votre résidence pour dire aux gens, pour qu'ils soient au courant, parce que très souvent, ça va leur faire tilt et ils vont dire « Ah, mais moi aussi, j'ai reçu ça » ou « Moi aussi, il m'est arrivé un truc comme ça ou... ». Et puis, signalez-le à l'Agence antifraude du Canada, parce que l'Agence antifraude, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des investigations, des enquêtes. Et donc, avoir des informations régulières qui leur signalent quand il y a une arnaque particulière qui semble tourner dans une région du Canada ou à un moment, ça les aide à continuer à voir un peu une vision d'ensemble de la situation et à communiquer régulièrement, plus efficacement sur le sujet. Vous avez aussi le bureau de la compétition.
Le centre antifraude, il permet aussi aux gens de pouvoir les aider à récupérer leurs sous, si jamais il y a des sous qui ont été récupérés, ou c'est vraiment plus le côté on explique ce qui s'est passé pour que d'autres personnes ne se fassent pas arnaquer.
C'est ça. Alors, le centre antifraude, c'est principalement expliquer ce qui se passe, enquêter, rassembler des données pour savoir à peu près combien de personnes ont été affectées, combien d'argent ça représente, parce que ça paraît futile de dire ça, mais la réalité est que ce qui compte est compté. Et donc, quand vous êtes capable de dire au gouvernement, voilà, l'année dernière, on a perdu tant de millions de dollars et tant de milliers de personnes ont été affectées par ça. Ça aide à faire avancer des décisions plus tard pour justement contrer ces types de crimes. Donc après, il faut parler à la police. Si vous voulez vraiment tenter de récupérer de l'argent, il va falloir parler à la police, parler à votre banque ou à votre caisse d'épargne. Aller voir sur les centres TransUnion et Equifax qui sont en charge des crédits, enfin de votre crédit, pour savoir si quelqu'un a essayé d'ouvrir un crédit à votre nom, s'il y a des dettes qui ont été créées sans votre permission, etc. Donc ça, ce sont des étapes à suivre quand quelque chose, quand de l'argent a disparu, pour essayer justement de récupérer ce que vous pouvez et puis d'avoir un processus en place pour empêcher que ça se passe à nouveau. Mais quand il s'agit des formations, etc., il y en a beaucoup, ça vaut le coup de vous renseigner, d'aller chercher quelque chose à proximité de chez vous. Si vous n'en trouvez pas, ça vaut le coup de contacter des organismes dans votre région. Par exemple, en Ontario, vous allez à Prévention de la maltraitance Ontario. Vous pouvez les contacter pour savoir s'ils peuvent vous procurer une formation ou des documents sur le sujet. Ce sont des choses que vous pouvez laisser dans une pièce d'activité commune pour que les gens lisent. Enfin, c'est le mot, le bouche à oreille peut vraiment être utile dans ces cas-là. Et je voulais dire aussi, il y avait une ressource que j'aime beaucoup parce qu'à nouveau, elle est courte et elle est facile à digérer. C'est le Bureau de la Compétition Canada qu'il a créé, et ça s'appelle le petit livre noir des arnaques. Et donc ils le mettent à jour assez régulièrement et ils passent en revue les principaux types d'arnaques qui existent. Et puis bien entendu, ben lisez les journaux, gardez un œil ouvert, parce que de plus en plus on en entend parler, ça commence vraiment à arriver. Avant, je trouve qu'on avait plus de mal à obtenir l'attention des journalistes sur des questions en général, les questions qui avaient à voir avec les personnes âgées. Ça commence à changer, je crois que la pandémie a fait vraiment aider à une prise de conscience générale. Et maintenant, quand vous commencez à y prêter attention, vous remarquez de plus en plus d'articles, surtout sur la maltraitance financière, les fraudes, les arnaques. Et quand vous commencez à y prêter attention, on ne peut plus ne pas le remarquer. C'est ça le plus étonnant. C'est c'est facile de se dire, mais comment ça se fait que j'avais jamais entendu parler de ça avant? C'est partout. Mais c'est juste cette première étape de vraiment réaliser que c'est un problème et y prêter attention. Un truc que je voulais dire, que tu avais dit un peu plus tôt en disant, bon, c'est peut-être ça, les aînés sont plus ciblés parce qu'ils sont plus naïfs. Ils sont pas forcément plus naïfs. Ça serait une généralisation de dire ça. Mais ce qu'on m'a dit très souvent, ce que j'ai entendu très souvent, ce sont des gens qui disent, et très souvent des femmes, parce que il y a un aspect de genre dans l'éducation, surtout des personnes plus âgées, qui était, on m'a toujours enseigné de pas faire d'histoire, pas faire de bruit, et quand il y avait un problème, m'excuser et régler le problème le plus vite possible. Il y a eu un conditionnement dès le plus jeune âge qu'il fallait être au carré. Il fallait ne pas faire de vagues. Et donc, quand quelqu'un au téléphone ou par email prend une grosse voix et leur dit qu'ils ont fait quelque chose de pas bien et qu'ils vont avoir ils vont aller en prison s'ils font pas X, Y, Z, la réaction immédiate à cause de ce conditionnement, c'est de dire, OK, qu'est-ce que vous voulez? On va régler le problème, je vous donne mon argent. Et donc, pour beaucoup de personnes, c'était apprendre à déconnecter ce mécanisme et apprendre à dire non. Ça peut être très difficile pour quelqu'un d'apprendre à dire non. Et juste dire non, pas non avec le pourquoi vous dites non, juste non. Non, c'est une phrase entière.
Une réponse en tant que telle.
C'est une réponse en tant que telle qui ne mérite pas d'aller plus loin, mais ça peut être très difficile à faire. Donc moi, c'est toujours ce que j'essaie de message que j'essaie de faire passer, c'est toujours de dire non, c'est une façon de se protéger, c'est du self-care, comme on dit en anglais, et c'est très important d'apprendre à dire non. Et pour les jeunes qui se disent que peut-être ils sont à l'abri, ça n'est pas le cas. Parce que
oui,
moi,
parce
qu'il y a
ton histoire d'Instagram, et d'ailleurs, j'ai failli rebondir, puis je l'ai pas fait, mais je me suis dit, quand on reçoit un email d'Instagram, quand on sait l'argent que fait Instagram, on se dit pas à un moment donné, mais c'est bizarre qu'ils peuvent pas faire des chèques moi. Bah alors, s'ils peuvent pas faire des chèques moi, j'encaisse les 5 000 et tant pis pour eux.
Voilà. Mais je crois qu'on est plus honnête que la jeune génération est peut-être plus honnête qu'on imagine, je ne sais pas. Mais surtout, ce qui est un risque plus grand, je crois, pour les plus jeunes générations, c'est que moi, j'ai grandi, je suis un peu à la charnière entre pré-internet, post-internet, mais pour des gens plus jeunes que ça, qui sont nés avec un téléphone dans les mains quasiment, l'habitude est de mettre toute leur vie tous les détails de leur vie sur Internet sans vraiment réfléchir à ce que ça veut dire. Et donc, quand il y a un système très bien organisé derrière qui récolte tout ça, qui peut utiliser tout ça contre vous, finalement, ça augmente vos risques aussi. Donc, c'est oui, il y a un facteur d'âge au sens où il y a peut-être, on est peut-être moins à l'aise avec certains aspects de la technologie quand on est plus âgé et on a peut-être un conditionnement générationnel. Mais ça vraiment, ça tape tout le monde. Ils savent trouver les faiblesses, que ce soit pour les personnes âgées ou les plus jeunes. Donc, personne n'est à l'abri et il faut avoir un peu une dose, sans devenir complètement cynique et pessimiste, mais avoir quand même une bonne dose de méfiance quand quelque chose comme ça se présente. D'un coup, ils sont là. Ils ont une offre pour vous, quelque chose de magique, de miraculeux. Il faut toujours faire attention à ça et se méfier. Et puis aussi, faire attention à ce qu'on met en ligne, faire attention avec qui on partage ces informations-là, ne pas forcément accepter des invitations d'inconnus complets. C'est très important d'avoir un peu une hygiène de vie en ligne digne de ce nom et de régulièrement se demander est-ce que j'ai changé mes mots de passe, est-ce que j'utilise le même mot de passe pour tous les services et toutes les plateformes et toutes les applis, ce qui est quelque chose dont beaucoup d'entre nous font cette bêtise. Ce sont des choses à éviter, par exemple.
Justement, je rebondis sur quelque chose d'important. Tu disais de, on a tendance, voilà, maintenant aussi à beaucoup partager, que ce soit les réseaux sociaux ou peu importe, on a tendance à plus se montrer et donc aussi plus donner de détails sur notre identité et nos données personnelles. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait voler son identité? Parce que tout à l'heure, tu parlais aussi d'Equifax, de TransUnion, des trucs de Crédit Score. Donc, justement, des gens avec tes données personnelles, ils peuvent ouvrir un crédit en ton nom, ils peuvent ouvrir une hypothèque en ton nom, un crédit en tout genre, peu importe. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on risque réellement et comment surtout on fait pour pouvoir récupérer toutes ces informations sans se dire que le gars, quelque part, il a toujours tout ça parce que nos identités, enfin, notre identité ne changera pas, sauf si on change de sexe ou quoi. Mais là, on part dans un autre débat. Mais je veux dire, mon nom restera mon nom, ma date de naissance restera ma date de naissance, mon lieu de naissance, pareil. Il y a des informations qui, quand bien même je ferme le compte ouvert par XY fraudeur, ces informations-là, elles m'appartiennent toujours. Et du coup, je me disais, voilà, qu'est-ce qu'on risque réellement quand on se fait voler ses identités et comment on peut être sûr et certain qu'une fois que l'histoire, elle est résolue, eh ben, on va pas avoir un autre problème, peut-être dans un autre pays, parce que les informations ont été vendues dans un autre pays ou XY raison.
Ça, c'est le casse-tête, vraiment, pour tout le monde, parce que, en effet, une fois que les informations sont parties, elles sont vendues. C'est tout à un prix, tout à une valeur. Donc, quand vous tombez dans une arnaque, généralement, votre nom, votre numéro, vos infos sont, appartiennent à une liste. Ils vont vous essayer à nouveau, hein. Ils vont vous recontacter à nouveau. Et quand quelqu'un arrive à mettre la main sur vos informations privées, numéro d'assurance sociale, etc., etc., ils peuvent faire un nombre de choses incalculables. Et alors, ça va de choses qui ont l'air plus bénignes, comme d'ouvrir un compte Facebook qui fait semblant d'être vous, mais qui n'est pas vous, pour vendre des arnaques à quelqu'un d'autre, jusqu'au, à ouvrir des comptes, des crédits, des choses comme ça. Alors là, ça devient, c'est un processus avec des étapes multiples, justement, pour passer par tous les services, demander, donc Equifax, TransUnion, vous pouvez demander à mettre un flag sur, donc à être notifié quand si quelqu'un essaie d'ouvrir des crédits en votre nom. La banque, bon, vous pouvez faire un certain nombre de processus pour protéger votre compte ou ouvrir un nouveau compte, avoir des nouveaux mots de passe, des nouveaux trucs de vérification. Généralement, les banques ont des processus assez robustes elles-mêmes. C'est après quand ça devient plus à ce qui existe en ligne que ça devient difficile à contrôler. C'est pas pour faire de la pub pour un autre podcast, mais il y a un balado de CBC qui s'appelle Love Janessa, qui est focalisé là-dessus, que je recommande grandement d'écouter. C'est très intéressant, c'est fascinant. Je demande, c'est une journaliste qui essaie de suivre à la trace, de trouver si l'image de profil d'une femme qui a été utilisée pour un nombre incalculable d'arnaques et de choses en ligne est réellement cette personne-là, ou comment son information a été développée, dispatchée partout. Exactement. C'est très très intéressant. Ça peut vous donner une meilleure idée de comment ça se passe. Mais alors, malheureusement, j'ai pas de réponse simple, histoire de dire qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, parce que ça implique juste d'activer vraiment tous les services et d'essayer de changer tout ce que vous pouvez. Quand vous avez le contrôle sur les mots de passe, sur les accès, etc., il faut changer tout, recommencer tout à zéro. Et puis aussi, bien entendu, parler aux services gouvernementaux, parler à la police et essayer de bloquer au maximum l'accès à nouveau. Mais ce qui est sorti et ce qui est parti, c'est pas toujours facile de faire, de récupérer ça.
Et Bénédicte, avant de se quitter, si tu avais justement un top 5 des meilleurs conseils, des meilleures bonnes pratiques, astuces, t'appelles ça comme tu veux, mais à garder en tête quand on fait des achats ou qu'on consulte ses emails ou qu'on partage du contenu sur les divers réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde en tête pour être sûr qu'on se fasse pas arnaquer plus tard, qu'on tombe pas dans une arnaque ou qu'on soit pas déjà victime d'une arnaque, surtout quand on est une personne âgée?
Oui, la première chose, c'est avoir une dose saine de méfiance et toujours se demander est-ce que c'est logique. Prendre juste ces 5 secondes de réflexion quand vous rencontrez une situation avant de vous lancer complètement. 5 secondes. Un grand souffle, une grande respiration, juste histoire que le cerveau commence à faire son travail normalement. Parce que très souvent, c'est tout ce qu'il faut pour réaliser qu'il y a un truc qui ne colle pas. Il y avait récemment quelque chose dans les informations comme ça d'un couple qui a failli tomber dans une arnaque. Il a juste fallu le temps de descendre, de prendre l'ascenseur pour descendre. Et entre 2 étages, juste ce petit battement leur a servi pour que l'un des deux se dise « Non, 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 mais c'est pas logique. » Donc, méfiance. Prendre 5 secondes pour réfléchir et respirer. Discutez-en. Ne prenez pas la décision immédiatement. Et puis, discutez-en avec quelqu'un autour de vous. Des fois, d'en parler, de le dire à haute voix et d'en parler à quelqu'un, la personne en face de vous va vous dire, mais non, c'est pas logique. Ou alors même vous, vous allez vous en rendre compte quand vous essayez d'expliquer ça vous-même. Et si quelque chose s'est passé, si vous avez été victime d'une arnaque et que vous avez perdu de l'argent, ne soyez pas honteux, ne soyez pas embarrassés, c'est horrible, c'est absolument horrible quand ça vous arrive, mais ça n'est pas votre faute. La seule personne qui est responsable dans l'affaire, c'est la personne qui a décidé de commettre un crime et de vous prendre votre argent. Vous, c'était pas votre faute, ils vous ont eu un moment de faiblesse ou un moment où vous étiez occupé, vous n'avez pas vraiment réfléchi, c'est pas votre faute. Et c'est important d'en parler, parce que si vous n'en parlez pas, ça va vous faire du mal intérieurement, émotionnellement. Ça ne va pas vous aider à récupérer votre argent, si c'est possible. Et vous vous trouvez à la merci peut-être d'une arnaque suivante. Donc, ne restez pas avec un secret pesant, quel qu'il soit. Parlez-en. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous écouter, soit des amis proches, soit des services qui sont dédiés à ça. Donc, ça ne vous engage à rien. Vous pouvez appeler quelqu'un et vider votre sac. Vous ne serez pas obligé de faire quoi que ce soit d'autre, mais ça vaut la peine de le faire. C'est nécessaire pour votre propre bien être. Et réfléchissez aussi, dites-vous que vous pouvez aider d'autres personnes en faisant ça. Si vous signalez ça au Centre antifraude du Canada, si vous en parlez autour de vous, vous pouvez éviter que d'autres personnes se sentent de la même façon que vous vous sentez. Et je pense que ça peut être une bonne motivation aussi.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Bénédicte, pour tous ces bons conseils. J'espère que les auditeurs de Choc FM 105.1 auront bien pris note de tous ces bons conseils, ces bonnes pratiques pour lutter justement contre toutes ces arnaques différentes, diverses qu'on peut croiser sur Internet. Merci d'avoir pris le temps de revenir sur ces points très importants. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie. Merci beaucoup, Bénédicte.
Ça m'a fait plaisir, merci.
N'osez les connecter, le point de vue de l'expert.
Et voilà, un gros merci à Mireille et Zénon d'avoir participé à cet épisode de Nos aînés connectés. Nous arrivons à la fin de ce merveilleux épisode où nous avions parlé de différentes fraudes que les membres du centre d'accueil Héritage ont vécues. Alors encore une fois, restez bien aux aguets lorsque vous recevez des messages par courriel vous demandant de l'aide et surtout n'hésitez pas à rentrer en contact avec cette personne. Peut-être qu'elle fait réellement face à de gros soucis financiers et qu'elle a besoin de vous pour de vrai, ou alors c'est une grosse arnaque dans laquelle vous risquez de tomber si vous ne faites rien. J'en profite également pour vous rappeler de ne jamais cliquer sur des liens qui vous ont été envoyés par des destinataires inconnus. Ne cédez pas face aux pressions qui concernent d'éventuelles situations urgentes, imaginaires, que ce soit par mail, texto ou encore via vos réseaux sociaux par exemple. Surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car des fois, c'est en disant ce qui vous arrive à haute voix et à quelqu'un de confiance que l'on réalise que l'on fait face à une arnaque. Alors, chers auditeurs de Choc FM 105.1, si cette émission a pu vous aider à ouvrir les yeux sur ces techniques de fraudeurs 2.0, je suis merveilleusement ravie. Et surtout, si jamais vous ou quelqu'un de votre entourage a été victime d'une arnaque en tout genre sur Internet, n'hésitez pas à venir partager votre histoire avec nous. Nous serons ravis de pouvoir mettre en lumière votre histoire et surtout prendre de vos nouvelles et nous assurer que tout va bien pour vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés. Je vous rappelle que ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés et que nos épisodes sont diffusés tous les mardis à 18h. Mais sachez que vous pouvez également retrouver tous les épisodes de la série Nos Aînés Connectés sur notre site chocfm.ca. Merci encore à tous et à toutes, c'était Anaïs Delhommel. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos Aînés Connectés sur les ondes de Choc FM 105.1.
Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos Aînés Connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.